Chapitre 8. Vous êtes capitaine d'artillerie à Berne, monsieur Louis Bonaparte. Vous avez nécessairement une teinture d'algèbre et de géométrie. Voici des axiomes dont vous avez probablement quelques idées. 2 et 2 font 4. Entre deux points donnés, la ligne droite est le chemin le plus court. La partie est moins grande que le tout. Maintenant, faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5, que la ligne droite est le chemin le plus long, que le tout est moins grand que la partie. Faites-le déclarer par 8 000 000, par 10 000 000, par 100 000 000 de voix. Vous n'aurez pas avancé d'un pas. Eh bien, ceci va vous surprendre. Il y a des axiomes en probité, en honnêteté, en justice, comme il y a des axiomes en géométrie. Et la vérité morale n'est pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique. La notion du bien et du mal est insoluble au suffrage universel. Il n'est pas donné à un scrutin de faire que le faux soit le vrai et que l'injuste soit le juste. On ne met pas la conscience humaine aux voix. Comprenez-vous maintenant ? Voyez cette lampe, cette petite lumière obscure, oubliée dans un coin, perdue dans l'ombre. Regardez-la, admirez-la. Elle est à peine visible. Elle brûle solitairement. Faites souffler dessus 7 500 000 bouches à la fois. Vous ne l'éteindrez pas. Vous ne ferez pas même broncher la flamme. Faites souffler l'ouragan. La flamme continuera de monter droite et pure vers le ciel. Cette lampe, c'est la conscience. Cette flamme, c'est elle qui éclaire dans la nuit de l'exil le papier sur lequel j'écris en ce moment. Chapitre 9. Ainsi donc, quels que soient vos chiffres, controuvés ou non, extorqués ou non, vrais ou faux, peu importe, ceux qui vivent l'œil fixé sur la justice disent et continueront de dire que le crime est le crime, que le parjure est le parjure, que la trahison est la trahison, que le meurtre est le meurtre, que le sang est le sang, que la boue est la boue, qu'un scélérat est un scélérat, et que tel qui croit copier en petit Napoléon copie en grand Lacenaire. Ils disent cela, et ils le répéteront, malgré vos chiffres, attendu que 7 500 000 voix ne pèsent rien contre la conscience de l'honnête homme. Attendu que 10 000 000, que 100 000 000 de voix, que l'unanimité même du genre humain scrutinant en masse ne compte pas, devant cet atome, devant cette parcelle de Dieu, l'âme du juste. Attendu que le suffrage universel, qui a toute souveraineté sur les questions politiques, n'a pas de juridiction sur les questions morales. J'écarte pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, vos procédés du scrutin, les bandeaux sur les yeux, les bâillons dans les bouches, les canons sur les places publiques, les sabres tirés, les mouchards pullulants, le silence et la terreur conduisant le vote à l'urne comme le malfaiteur au poste. J'écarte cela. Je suppose, je vous le répète, le suffrage universel vrai, libre, pur, réel, le suffrage universel souverain de lui-même, comme il doit être. Les journaux dans toutes les mains, les hommes et les faits questionnés et approfondis, les affiches couvrant les murailles, la parole partout, la lumière partout. Eh bien, à ce suffrage universel-là, soumettez-lui la paix et la guerre, l'effectif de l'armée, le crédit, le budget, l'assistance publique, la peine de mort, l'inamovibilité des juges, l'indissolubilité du mariage, le divorce, l'état civil et politique de la femme, la gratuité de l'enseignement, la constitution de la commune, les droits du travail, le salaire du clergé, le libre-échange, les chemins de fer, la circulation, la colonisation, la fiscalité, tous les problèmes dont la solution n'entraîne pas son abdication. car le suffrage universel peut tout, hormis abdiquer. Soumettez-les lui, il les résoudra, sans doute avec l'erreur possible, mais avec toute la somme de certitude que contient la souveraineté humaine. Il les résoudra magistralement. Maintenant, essayez de lui faire trancher la question de savoir si Jean ou Pierre a bien ou mal fait de voler une pomme dans une métairie. Là, il s'arrête. Là, il avorte. Pourquoi ? Est-ce que cette question est plus basse ? Non, c'est qu'elle est plus haute. Tout ce qui constitue l'organisation propre des sociétés, que vous les considériez comme territoire, comme commune, comme État ou comme patrie, toute matière politique, financière, sociale, dépend du suffrage universel et lui obéit. Le plus petit atome de la moindre question morale, le brave. Le navire est à la merci de l'océan, l'étoile non. On a dit de M. Le Verrier et de vous, M. Bonaparte, que vous étiez les deux seuls hommes qui crussiez à votre étoile. Vous croyez à votre étoile, en effet. Vous la cherchez au-dessus de votre tête. Eh bien, cette étoile que vous cherchez en dehors de vous, les autres hommes l'ont en eux-mêmes. Elle rayonne sous la voûte de leur crâne. Elle les éclaire et les guide. Elle leur fait voir les vrais contours de la vie. Elle leur montre dans l'obscurité de la destinée humaine le bien et le mal, le juste et l'injuste, le réel et le faux, l'ignominie et l'honneur, la droiture et la félonie, la vertu et le crime. Cette étoile, sans laquelle l'âme humaine n'est que nuit, c'est la vérité morale. Cette lumière vous manquant, vous vous êtes trompé. Votre scrutin du 20 décembre n'est pour le penseur qu'une sorte de naïveté monstrueuse. Vous avez appliqué ce que vous appelez le suffrage universel à une question qui ne comportait pas le suffrage universel. Vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes un malfaiteur. Ce qu'il y a à faire de vous ne regarde pas le suffrage universel. Oui, naïveté, j'y insiste. Le bandit des Abruzzes, les mains à peine lavées, ayant encore du sang dans les ongles, va demander l'absolution au prêtre. Vous, vous avez demandé l'absolution au vote. Seulement, vous avez oublié de vous confesser. Et en disant « au vote, absous-moi », vous lui avez mis sur la tempe le canon de votre pistolet. Ah, malheureux désespéré, vous absoudre, comme vous dites. Cela est en dehors du pouvoir populaire. Cela est en dehors du pouvoir humain. Écoutez, Néron, qui avait inventé la société du 10 décembre, et qui, comme vous, l'employait à applaudir ses comédies, et même, comme vous encore, ses tragédies. Néron, après avoir troué à coups de couteau le ventre de sa mère, aurait pu, lui aussi, convoquer son suffrage universel à lui. Néron, lequel ressemblait encore au vôtre en ce qu'il n'était pas non plus gêné par la licence de la presse. Néron, pontife et empereur, entouré des juges et des prêtres prosternés devant lui, aurait pu, posant une de ses mains sanglantes sur le cadavre chaud de l'impératrice, et levant l'autre vers le ciel, prendre tout l'Olympe à témoin qu'il n'avait pas versé ce sang, et adjurer son suffrage universel de déclarer à la face des dieux et des hommes que lui, Néron, n'avait pas tué cette femme. Son suffrage universel, fonctionnant à peu près comme le vôtre, dans la même lumière et dans la même liberté, aurait pu affirmer par 7 500 000 voix que le divin César Néron, pontife et empereur, n'avait fait aucun mal à cette femme qui était morte. Sachez cela, monsieur. Néron n'aurait pas été absous. Il eût suffi qu'une voix, une seule voix sur la terre, la plus humble et la plus obscure, s'éleva au milieu de cette nuit profonde de l'Empire romain et cria dans les ténèbres : Néron est un parricide, pour que l'écho, l'éternel écho de la conscience humaine répéta à jamais, de peuple en peuple et de siècle en siècle, « Néron a tué sa mère !» Eh bien, cette voix qui proteste dans l'ombre, c'est la mienne. Je crie aujourd'hui, et n'en doutez pas, la conscience universelle de l'humanité redit avec moi. Louis Bonaparte a assassiné la France. Louis Bonaparte a tué sa mère.